سيارة الحليب مؤمن إليك.
Des hommes politiques entretenaient des relations amicales avec M. Saddam Hussein.
Dans le mercenaire.
Blessure de Cody, elle, est invisible.
L'opinion publique internationale avec tous ses images ne le supportera pas.
Le jour, il n'ose même pas rester seul avec ses enfants.
Il paye le prix.
La ligne d'affrontement avec les Américains est à moins d'un kilomètre cinq. Impossible d'aller plus loin.
C'est toujours d'actualité ce soir dans le rendez-vous. En direct sur France Culture, il sera question de l'Irak, des vétérans, de psychothérapie, d'Émile Zola, d'Aimé Césaire, de Rouge et même de Colette Mani. Avec Laurent Bécu-Renard qui signe « Of Men and War », des hommes et de la guerre, un documentaire sur les vétérans de l'Irak entre séances thérapeutique et crise familiale, Lucille Comeau.
Retour sur le parcours d'un documentariste qui déplace le terrain du film de guerre, transformant l'action en objet de récit thérapeutique.
19h30, la session live du mardi, engagée elle aussi ce soir avec Asse Poulsen.
Oui, session connard avec Asse Poulsen, alias The Man They Call Us. Il jouera en direct dans le studio The President of France is a Criminal.
19h35, prise de parole avec Edwige Plenel qui publie Pour les musulmans, un texte engagé dans la tradition du J'accuse et du Pour les juifs d'Émile Zola, par le cofondateur du site Mediapart, Benoît Laguen.
Oui, l'occasion de revenir sur le parcours militant d'un journaliste à part, nourri autant par les textes de Zola que ceux d'Aimé Césaire et qui avait écrit « C'était un signe », son premier essai à l'âge de 16 ans.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfèze. On ouvre avec le son du jour.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Là, là, aide-moi, regarde, là, là.
Un poteau.
Mais non, non, là, là.
Un poteau télégraphique.
Alors toi, on fait le tour du monde et tu vois que des poteaux.
Oh, oublie-moi un peu, tu veux?
Il est fabuleux. On est au milieu des merveilles et monsieur fait son blasé.
Écoute, un déserteur qui voyage dans une voiture volée avec une hystérique, de deux choses l'une. Ou c'est un névropathe ou c'est un blasé, choisis.
Avance.
Si je veux.
Bonsoir Zoé Sfèze.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme d'habitude, il ne date pas d'aujourd'hui.
Non, c'est un extrait de L'Homme de Rio de Philippe de Broca, car ce dialogue délicieux, il faut dire, entre Jean-Paul Belmondo et Françoise d'Orléac toute jeune, a été écrit par Daniel Boulanger, écrivain mais aussi scénariste de cinéma de génie qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 92 ans. C'est Jean Paulhan qui l'avait remarqué dans les années 40 avec ses poèmes. Il a ensuite construit une œuvre littéraire très dense à raison d'un roman ou d'un recueil de nouvelles par an. Il les a publiés quasiment tous chez Gallimard. Il a reçu le prix Goncourt de la nouvelle pour Les Noces du Merle en 63 et puis la bourse Goncourt pour Fouette Cochet. Il a fait aussi des apparitions au cinéma, chez Truffaut, chez Godard. Et il a donc écrit pour Claude Chabrol, Philippe de Broca, Louis Malle, Jean-Paul Rapneau, René Clément et Alain Corneau.
Tout de suite, on passe au dossier du jour. Une trentaine d'artistes européens ont signé une pétition pour dénoncer la nomination au poste de commissaire européen à la culture, à l'éducation, à la jeunesse et à la citoyenneté de Tibor Navratić, oui, un Hongrois membre du parti très autoritaire de Viktor Orban en Hongrie.
Alors déjà, sa nomination a été assez rocambolesque. Il a été proposé par Jean-Claude Juncker et sa nomination a été rejetée par une commission du Parlement européen au début du mois, avant finalement d'être entérinée au début de la semaine dernière. Et à l'initiative du Belge Bernard Faucroul, qui est le président du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, une pétition a été lancée pour appeler à l'annulation de cette nomination, signée entre autres par Ariane Mouchkine, les frères Daden en Belgique, le metteur en scène Thomas Ostermeyer en Allemagne, Olivier Py, beaucoup d'autres, une trentaine en tout, et aussi par le chorégraphe français Boris Charmatz. Écoutez ce qu'il dit.
On est nombreux en Europe, artistes, à être contre la nomination de ce commissaire en charge de la culture, Tibor Navratić, parce qu'il a travaillé au gouvernement Orban. D'ailleurs, la commission a beaucoup lutté pour faire amender certaines décisions de ce gouvernement, puisque c'est un gouvernement qui est ouvertement antidémocratique. Il y a une foultitude de lois qui sont incroyables. Il a modifié la Constitution 4 fois. Donc c'est vraiment incroyable qu'on accueille en Europe et qu'on promeuve comme ça quelqu'un qui représente un gouvernement qui tourne le dos à l'Europe, évidemment aux idéaux culturels de l'Europe, puisqu'il a aussi, ce gouvernement, défini les racines chrétiennes de la Hongrie séculaire. Et donc c'est tout ça contre lequel on doit protester.
Cette nomination intervient alors qu'un mouvement contestataire secoue la Hongrie suite à une nouvelle proposition de loi qui a trait à la culture ou du moins à la communication.
Un projet de loi effectivement présenté ce mardi qui a poussé près de 100 000 personnes dans les rues. Quand on regarde dans le détail, évidemment, la politique culturelle du gouvernement de Viktor Orban, eh bien, elle est très autoritaire. Écoutez, Paul Gradvol, il est directeur du Centre interuniversitaire d'études hongroises à Paris Sorbonne Nouvelle 3.
Ce qui peut faire peur, c'est déjà la politique culturelle elle-même, c'est-à-dire qu'on met à la tête d'un des principaux musées censés s'occuper d'art contemporain, quelqu'un qui explique que le meilleur art contemporain a à peine dépassé les années 1860-1870 et que le reste n'est que fadaise et que le bon art contemporain est l'art contemporain qui chante la gloire nationale. Donc, effectivement, c'est tout à fait effrayant. Le gouvernement Orban est un gouvernement qui a financé à grands frais toute une série de films qui ont plus ou moins été des flops d'ailleurs, autour de grands personnages nationaux. Et la mesure qui, en ce moment, met une bonne partie de la population dans la rue, c'est le fait qu'il y a un impôt qui va être introduit sur les connexions Internet, qui veut dire grosso modo que les seuls médias qui résistaient aujourd'hui de façon très active sont des médias qui fonctionnent essentiellement par Internet, et on va chercher à affaiblir ces médias. On est dans une situation où il y a une pression gouvernementale extrêmement forte pour façonner l'opinion publique.
Ce qui frappe aussi avec ce nouveau commissaire à la culture, eh bien, c'est que son parcours n'a rien à voir avec la culture. Ce n'est pas le seul.
Ce n'est pas le seul, mais alors là, c'est sa principale caractéristique, finalement, c'est qu'il était très loyal à Viktor Orban. Il a notamment été ministre de la Justice. Il a mis en œuvre une réforme qui renforçait la tutelle de la présidence sur les magistrats. Il reste néanmoins, selon les observateurs politiques, l'un des membres du parti les plus modérés, en tout cas en matière de nationalisme, et les plus pro-européens, finalement. Il n'a, en revanche, je vous l'avais dit, jamais eu de près ou de loin à traiter avec la culture. Il ne revendique aucun programme particulier en tant que commissaire européen, ce qui, là aussi, est un symbole fort et inacceptable pour Boris Schermatz, chorégraphe et directeur du musée de la danse à Rennes.
C'est quand même un symbole parce que, d'une certaine manière, le budget de la culture pour l'Union européenne, il est extrêmement faible. Et c'est justement parce qu'il est extrêmement faible que c'est du symbole. Il devrait être développé. Évidemment, l'Europe de la culture, c'est peut-être la première chose par laquelle on aurait dû commencer avant même de penser à la réunion économique de la zone économique de la zone euro, que les artistes circulent en Europe, ils ont bénéficié de l'Europe. Donc on est extrêmement déçus de ça. Je crois que ça reste un symbole, et un symbole très négatif, de nommer quelqu'un dont personne ne veut et qui n'a effectivement pas les compétences requises.
Voilà, alors même s'il n'a pas de programme et même s'il est carrément à contre-emploi, il faudra bien qu'il agisse en européen maintenant et plus en hongrois. C'est en tout cas ce que disent les analystes politiques, notamment sur ce cas emblématique de la loi sur Internet qui va complètement à l'encontre de la politique européenne en matière de numérique. Il va être obligé de se positionner assez vite.
D'être des réactions de la part de notre invité, Edoui Blenel.
Ah, écoutez, c'est bien la preuve que ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui, et notamment nos gouvernants, par l'obsession du marché, par l'obsession de l'argent, par l'obsession de la finance et de l'économie, font le lit de l'extrême droite, tout bêtement, des fascistes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'Internet ? Internet, c'est le libre accès aux connaissances, au savoir, à la culture, au cours du Collège de France, comme à l'information. Donc, vouloir mettre des barrières, vouloir ruiner sa neutralité, comme l'on dit, c'est s'en prendre, comme hier, au droit d'accès à l'éducation, au droit d'accès à tout ce qui fait que l'on peut s'élever, que l'on peut bouger, que l'on peut être des citoyens actifs. Donc, c'est une mesure terrible, mais je trouve que ce qui est terrible, le problème n'est pas la nationalité, cet homme a ses convictions. C'est que l'on considère que l'Europe ne soit pas une affaire de conviction et que l'on peut s'arranger entre État, nation, sans se préoccuper du contenu de l'Europe. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a en commun ? Ben, c'est simplement un grand marché. Il y a seulement une valeur, l'argent, la marchandise. Eh bien non, ce n'est pas ça l'Europe, ce n'est pas ça l'idéal démocratique.
Tout de suite, on passe aux brèves.
Et on ouvre avec les quatre finalistes du prix Goncourt qui ont été dévoilés ce mardi. Éric Reinhardt et son Amour des forêts sont finalement évincés. Reste donc Kamel Daoud avec Meursault contre-enquête, Pauline Dreyfus avec Ce sont des choses qui arrivent, David Foenkinos avec Charlotte et Lydie Selver avec Pas pleurer.
Hadopi est au bord de l'asphyxie budgétaire.
La Haute Autorité pour la protection des œuvres sur Internet, qui doit sanctionner les internautes fraudeurs, qui a failli être fermée l'an dernier, n'a plus d'argent. Son budget a été divisé de moitié depuis sa création. Et sa présidente Marie-Françoise Marais se dit révoltée aujourd'hui par le traitement réservé à l'Hadopi. Elle réclame une hausse de 7,5 millions d'euros pour 2015.
Christian Rizzo, nommé à la direction du Centre chorégraphique national de Montpellier.
À 49 ans, Christian Rizzo succède à Mathilde Monnier, qui est partie diriger le Centre national de la danse de Pantin. Venu de la musique et du stylisme, le chorégraphe a notamment effectué une résidence très remarquée à l'Opéra de Lille. En tant qu'artiste associé à Montpellier, son projet est d'institut chorégraphique international allie la création, la transmission et la formation.
Et la dernière.
C'est une histoire de disparition, d'engagement, de défense de la culture et puis de maladresse, il faut bien le dire. Vous les avez peut-être vus dans une vingtaine de villes de France, des avis de disparition qui ont été placardés un peu sur tous les murs avec une photo disparue le 21 septembre 2014. Aurélie Schmitt, 25 ans, les yeux verts, les cheveux blonds, maquilleuse aperçue pour la dernière fois à Nouilly, Franck Vincent, administrateur, etc. Elles ont paniqué certains passants et donné lieu même pendant les premiers jours à quelques coups de fil à la police. Mais en fait, il s'agissait d'une performance artistique du collectif Boisjot-Renaud-Turon qui voulait alerter, interpeller sur la désespérance sociale des intermittents. Alors problème, cette performance a été très très mal prise par plusieurs associations et plusieurs proches de personnes qui, elles, ont réellement disparu. La ville de Niort est allée jusqu'à porter plainte, même si le parquet pourrait décider de classer l'affaire sans suite. Les artistes s'excusent, mais ils réaffirment leurs propos et indiquent que si c'était à refaire, eh bien, ils le referaient. Un propos qui semble d'autant plus pertinent aujourd'hui où une étude de l'Institut d'analyse Terra Consultante est publiée. Elle révèle qu'en 3 ans, 400 000 emplois ont été détruits en Europe dans les industries créatives.
Des réactions peut-être à ce journal de la culture ou aux autres informations qui ont été données. Edwy Plenel, je crois que vous vouliez intervenir sur un sujet bien précis.
Ah oui, disons qu'on veut tous intervenir, en tout cas tous ceux qui pensent que la jeunesse est toujours l'avenir du monde. Elle n'a pas toujours raison, mais un pouvoir qui réprime la jeunesse a toujours tort. La mort de Rémi Fraisse, dont, comme les témoignages, les vidéos collectées par Mediapart dès hier le montraient, on sait de la voix du procureur qu'il s'agit bien d'une grenade offensive jetée au milieu de manifestants pacifiques qui est à l'origine de sa mort. Le maintien de l'ordre, c'est la protection, normalement. C'est la violence légitime de l'État pour protéger. Et donc, si le maintien de l'ordre est responsable de ce désordre, et ce désordre, ce n'est pas n'importe lequel, la mort d'un homme, la mort d'un jeune homme de 21 ans, d'un jeune homme écologiste, amoureux de la nature, des papillons et des petits insectes.
Eh bien, c'est pas que ça, l'écologie. Hein,
non, mais en l'occurrence, non, je sais bien, j'ai une haute idée de l'écologie politique. Mais en l'occurrence, c'était son amour à lui, à Rémi Fraisse, la nature concrète. Et il venait là avec sa passion. Il suffit de voir les vidéos. On voit bien des jeux du côté des forces de l'ordre, des gens qui se mettent en guerre, qui font la guerre. On a un directeur de cabinet du préfet qui est lui-même issu d'une carrière militaire, qui a prétendu voir des drapeaux de l'État islamique, qui, bref, s'est mis en guerre et a créé un climat de guerre civile, en clair de provocation policière. La question que je pose ce soir est toute simple. Quand il y a ce désordre, la mort d'un homme, eh bien, il y a des responsables. Et il y a des responsables du maintien de l'ordre. Quand Malik Oussekine est mort, fin 86, d'abord le président de la République, François Mitterrand, est venu voir la famille dès le lendemain. On a attendu 48 heures pour un pauvre coup de fil du président François Hollande. Et puis le ministre dont le projet était contesté, M. De Vaquet, a démissionné le soir même. Et puis le projet de réforme a été retiré le lendemain par le Premier ministre Jacques Chirac. Cet événement n'est pas un fait divers. Il doit se traduire par le retrait du barrage de Sivens, de cette course aux subventions européennes, car c'est pour ça qu'ils ont précipité l'événement, pour 2 pauvres millions de technocrates et d'apparatchiks du Parti socialiste local. Et en y ajoutant cette abjonction de ce président du Conseil général du Tarn, ignorant de sa propre histoire, de sa formation politique, de toute notre histoire de combat républicain, disant quand même mourir pour des idées, c'est stupide et bête. Voilà, eh bien non, ce n'est pas stupide et bête, et il faut que les responsables payent, et ils sont politiques les responsables, et nous attendons tous des décisions.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
La tothérapie avec vous, Laurent Bécurenard. Vous êtes réalisateur avec en 2003 un premier documentaire très remarqué de Guerlas, tourné auprès de femmes bosniaques après la guerre. On en reparlera. Cette année, deuxième film Hoffman en noir, traduction des hommes et de la guerre, qui est sorti mercredi dernier en salle. Vous avez filmé entre 2008 et 2012 des vétérans de la guerre d'Irak, d'abord dans un centre spécialisé dans le traitement du syndrome post-traumatique en Californie, le Pathway. C'est un centre qui a été fondé par Fred Gusman, lui-même vétéran de la guerre du Vietnam, et on l'entend dans le film d'ailleurs, lors des séances avec les vétérans, mais on ne le voit presque jamais, alors même qu'il est au cœur du processus et du film. Pourquoi fallait-il le laisser hors champ ?
Parce que je souhaitais que chacun de ces garçons s'adresse à chacun d'entre nous, les spectateurs, et que c'était comme ça que la caméra était introduite en thérapie aussi, comme une caméra qui était aussi une caméra de médiation vers l'extérieur, sachant que ces garçons, une partie de leur souffrance, comme on le voit très bien dans le film, c'est leur immense difficulté à communiquer aux plus proches, la femme, la mère, les enfants, ce que la guerre a fait d'eux.
Avant de filmer, vous avez vécu 5 mois en immersion dans le Pathway, donc dans ce centre. Qu'est-ce que cette résidence préalable a permis ensuite ?
Il fallait que je puisse faire partie des murs. Et je suis entré dans le centre alors qu'il ouvrait et que les premiers patients arrivaient. Et c'était aussi une manière de prolonger les années de recherche où je m'étais vraiment imprégné au mieux de la culture de ces garçons qui rentraient du front. Et là, je les voyais d'autant plus près que j'étais avec eux quotidiennement.
Lucille.
Comment est-ce que vous les aviez menés, ces recherches-là, précisément ?
Un peu comme n'importe quel journaliste aurait fait un travail de recherche, c'est-à-dire en tirant des fils, en rencontrant des associations, des associations de femmes, des associations de parents, en rencontrant des soldats qui étaient en souffrance, en rencontrant des soignants. Et c'est comme ça que, dès le premier voyage, j'ai rencontré Fred, le thérapeute, qui, 4 ans plus tard, ça je ne pouvais pas le savoir, elle est amenée à créer ce premier centre d'initiative privée qui prend en thérapie résidentielle ces jeunes hommes qui rentrent d'Irak et d'Afghanistan.
Vous dites que c'était plus facile d'être un étranger plutôt qu'un Américain. Qu'est-ce que ça permettait ?
C'était dans une double facilité. C'est-à-dire, pour eux, ça les libérait d'une certaine manière. Ils ne pouvaient pas me raccrocher à quelqu'un qui, venant de leur propre pays, ouais, aurait pu porter un jugement. J'étais l'étranger, j'étais le témoin absolu, j'étais l'étranger absolu. Et je crois qu'ils n'allaient pas se dire, mais compte tenu de sa classe, compte tenu de ses origines. En fait, ils étaient, je pense, assez impressionnés que cet étranger absolu passe autant de temps, reste, écoute chacune de leurs questions et de leurs réponses, puisque là, à la différence du journaliste, moi, je ne posais pas de questions. J'écoutais les questions qu'ils se posaient à eux-mêmes.
Vous leur avez parlé de votre propre parcours, c'est-à-dire, par exemple, du documentaire que vous aviez fait auprès des femmes bosniaques ?
Je leur ai bien sûr parlé et je leur ai montré à ceux qui le souhaitaient. Et la plupart l'ont vu. Et ce qui était étonnant, c'est que... Enfin, étonnant et non, oui, c'est qu'ils se retrouvaient chez ces femmes bosniaques dans la manière d'exprimer le traumatisme, la rupture, ce que la guerre avait fait d'eux. Et pourtant, évidemment, à la différence des femmes bosniaques, eux, ils étaient en capacité de donner la mort.
Duplenel, je sais que vous avez vu le documentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Non seulement je l'ai vu, mais on a choisi Mediapart d'en être partenaire et d'inviter tous ceux qui nous lisent à aller le voir. Je pense que dans ces temps où on reparle de guerre, je rappelle que la France est peu ou prou présente sur 3 guerres aujourd'hui, Mali, Centrafrique et non pas au sol en Irak. Ce travail exceptionnel, magistral, rappelle que ce n'est pas la guerre qui dure le plus longtemps, c'est l'après-guerre. Et que la question qui travaille une société, c'est l'après-guerre. Dans vos entretiens, vous parlez, nous sommes dans le même cas, moi il se trouve que je les ai connus, de vos 2 grands-pères qui ont fait les 2 guerres, dans mon cas les 2 guerres mondiales, et qui étaient pour certains avec ce silence et avec même ce point commun d'avoir été prisonnier, évadé, etc. Et donc quand vous me demandiez ce qui m'a marqué, je trouve qu'il y a une immense qualité dans le travail de Laurent, qui est un mot, on en parlera peut-être, qui me tient à cœur, puisque j'en parle dans mon livre, qui est l'empathie. Je dis souvent, quand on demande qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, et un documentariste est une forme de journaliste, quelles sont nos qualités ? C'est évidemment la curiosité, il faut aller être curieux pour aller les chercher, ces témoignages. Et j'ajoute toujours, mais il faut avoir la curiosité généreuse. Et il y a dans non seulement la façon de filmer, mais le montage, qui casse la temporalité, qui fait qu'on les voit à des moments en barbe, sans barbe, ayant grossi, ayant maigri, etc. Il y a dans le montage une immense retenue qui fait que c'est la formule d'Emmanuel Burdeau. C'est en ligne ce soir sur Mediapart.
Emmanuel Burdeau, critique de cinéma.
Oui, ancien directeur des Cahiers du cinéma qui traite du cinéma à Mediapart. Et c'est ce soir avec un extrait inédit du film. Il dit « C'est une généalogie de la colère, ce film. » film. Et c'est, je crois, beaucoup plus fort de montrer ça que de montrer la guerre, en fait.
En parlant de généalogie, j'ai lu dans un entretien qu'à l'origine de votre travail de cinéaste, il y avait justement votre famille, et en particulier les deux grands-pères dont parle Edith Plenel. Je me demandais qu'est-ce que votre cinéma doit à votre histoire familiale, Laurent Bécurenard ?
Oh ben, il lui doit tout, parce que c'est par la guerre que je suis arrivé au cinéma. C'est-à-dire que j'avais passé la dernière année de guerre à Sarajevo, mais pas comme cinéaste, comme journaliste. Et c'est en rencontrant justement quelques-unes de ces femmes bosniaques qu'évoquait Louis Plenel et leur thérapeute qui travaillait avec elles, que tout d'un coup, j'ai su que c'était par le cinéma et le cinéma documentaire que je souhaiterais dorénavant m'exprimer. Et je pense que j'avais ce besoin d'incarnation, des traumatismes, que la lente verbalisation et que j'observais quand j'ai rencontré cette thérapeute était exactement ce dont je voulais rendre compte.
Oui.
Non, je disais, c'est une question de la parole, hein, de parler, d'ouvrir les placards, etc. C'est une question éminemment politique. Nous parlons actuellement, vous avez vu, Obama est prix Nobel de la paix, peut-être un peu trop rapidement. 12 prix Nobel l'enjoignent de rendre public un rapport qui est toujours fermé, qui est le rapport détaillé. Hein, sur, parce que vous parlez dans ce film, ils parlent de leur honte sur ce qu'ils ont fait aussi, de leur culpabilité et tout. En clair, sur la question de la torture, hein, c'est un rapport qui détaille tout cela et qui est actuellement verrouillé à la demande de l'appareil de sécurité américain. Desmond Tutu, d'autres, tout cela demande qu'il révèle jusqu'où la guerre peut devenir sale.
Justement, à ce propos, Laurent Bécurenard, il y a quelque chose d'assez étonnant dans votre film, c'est que les vétérans ne parlent jamais de ce qu'ils pensent de la guerre, c'est-à-dire des injustices, des motifs, des justifications. Il n'y a aucun discours politique. Est-ce que c'est un choix de votre part que vous avez fait au montage, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté sur place ?
Non, ce n'est pas un choix. Il faut comprendre que pendant les 2h22 qu'on passe avec eux, qui est presque la durée de leur séance de thérapie, ce dont il est question... Et ce dont il était question pour eux au quotidien pendant tous ces mois et années pendant lesquelles je les ai côtoyés, à chaque instant, c'est une lutte interne entre leur désir de vivre et une pulsion de mort. Et que ce n'est pas gagné. On le voit bien, d'ailleurs, sans révéler ce qui se passe dans le film. Et donc, dans ce débat-là, interne, extrêmement violent, la place de la réflexion politique, ce n'est pas le temps. Il n'est pas venu le temps. Peut-être que plus loin dans leur vie, ils s'engageront, qui socialement, qui politiquement, on ne sait pas. Peut-être qu'avant de venir au centre, parce qu'ils arrivent en thérapie après 2-3 ans pendant lesquels ça a été une longue chute, si vous voulez, une très grande désocialisation, très souvent la perte de la famille, la perte d'un éventuel travail qu'ils auraient pu trouver, et beaucoup d'abus en tout genre, même de la prison parfois. Et donc vraiment... ce dont il est question, c'est pas la politique. Et peut-être qu'ils ont eu des conversations politiques, mais
ils ont décroché là où la politique aurait pu, pour et certains, les rattraper, non ?
Oui, absolument. Mais je crois encore une fois, vous savez, c'est assez. Des gens m'avaient dit pour le premier film de Gerlas que les femmes bosniaques non plus ne parlaient pas de politique. Elles nommaient l'ennemi, mais comme une figure. L'ennemi. Et certaines personnes me disaient, mais comment ça se fait qu'elle... Mais je pense que ce n'était pas le temps non plus. Le temps était de savoir, est-ce que je vais trouver en moi des capacités de survivance, trouver quelque chose qui est encore vivant à travers la parole pour me maintenir ici-bas avec les contemporains.
C'est très fort ce que vous dites. Ça veut dire que la guerre tue le bien commun, si on prend l'idée de la politique comme non pas une image partisane, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?
C'est certain que c'est en tout cas le vrai coup de la guerre. Et quand les États démocratiques vont en guerre, on ne peut pas être angélique, on ne peut pas être hypocrite, on ne peut pas être cynique. C'est le prix que des jeunes hommes, qui n'ont rien à voir dans cette affaire, vont avoir à payer en notre nom à tous.
Une question sur la distance que vous avez avec les sujets que vous filmez. Quand vous filmez, par exemple, les séances de thérapie, vous filmez au plus près des visages. Je me demandais qu'est-ce qui avait motivé cette proximité, d'autant plus qu'au niveau du son, vous avez un dispositif particulier, il n'y a pas de perche, mais vous avez mis les micros au plafond pour justement éviter de tendre les perches. Une question par rapport à cette proximité, cette distance que vous avez évaluée avec vos sujets.
Alors,
Laurent Bécurenard.
Il se trouve, je vais répondre juste pour le son, parce qu'il y a une petite anecdote que je dois dire. Il se trouve que mon frère, Cyril Bécu, est directeur du son dans cette maison et que je l'ai vu pendant des années.
Ici même à la Maison de la Radio.
Oui, à la Maison de la Radio. Mettre des micros au plafond pour enregistrer de la musique classique, de l'opéra. Et que j'ai tout de suite pensé à ce dispositif et il est venu m'aider à installer le son là-bas. Et je lui en suis très reconnaissant. Et c'est vrai que j'avais peur que ça soit la limite, la perche, que les garçons la ressentent comme une agression, presque une arme. Après, à la caméra, puisque pour vous parler de la thérapie, c'est vrai que en thérapie, c'est moi le plus souvent qui suis à la caméra. J'ai été, peut-être c'est l'empathie dont parlait Louis Plenel, extrêmement proche de ces garçons. Et c'est vrai que j'avais l'œil rivé sur leur visage et je cherchais à aller presque à la source incarnée de leurs paroles, dans leur bouche. Et c'est pour ça que, pour tout ce qui est de la thérapie, on est extrêmement proche des garçons dans l'image.
L'empathie, c'est être soucieux, mais l'humanité concrète et pas un homme abstrait. Hein, on dit des grandes phrases et puis l'homme concret, on l'ignore. Et donc, en foyant comme ça, on est du côté de l'humanité concrète.
Dernière question, Lucille.
Déjà, à propos de votre dernier film, vous évoquiez le rôle de la caméra dans la thérapie des sujets filmés. D'un point de vue psychanalytique, comment, selon vous, se joue ce mécanisme pour les vétérans en question ?
Il joue à pas mal de niveaux, à mon avis. Mais le premier niveau, c'est celui de la reconnaissance-validation. C'est-à-dire que cette présence que j'évoquais sur une très longue durée tout à l'heure, en répondant à la première question, c'est une manière aussi de reconnaître qu'il leur est arrivé quelque chose et que cette chose a fait cela d'eux. Et ça, c'est ce que fait le thérapeute tous les jours. Mais la présence de la caméra et ma présence ne fait que l'amplifier. Et ça joue un rôle sur le plan thérapeutique. Après, il y a un deuxième aspect qui est cette médiation. Vous voyez combien il souffre de cette solitude. Et là, il y a la promesse que le récit sera fait à l'extérieur et pas avant que ce soit vers nous, les spectateurs. C'est leur famille, leur plus proche. Et la dernière chose, je pense, il y a beaucoup d'autres raisons, mais importante qui fait que ça joue dans la thérapie, c'est qu'il y a la promesse d'un récit. Pendant tout le temps où ils sont en thérapie, même leur parole est chaotique à leur propre point de vue. Et voilà qu'il y a dans la salle quelqu'un dont le métier est de raconter des histoires. Et je pense qu'il y a cette attente que le récit leur soit restitué au bout du compte. Et ça, à mon avis, ça joue un rôle dans la thérapie. Encore une fois, on n'en a jamais parlé avec les garçons. Ce que je vous dis, c'est une perception. Et je pense que ça joue de manière très inconsciente.
Ils ont vu le film.
Il y en a un qui l'a vu à Cannes, hein, notamment.
Alors, il y a un des garçons qui est venu effectivement à Cannes, parce qu'il avait de la famille à Aix-en-Provence.
Ça a été présenté lors du festival.
Ouais. Voilà. Et les autres, en fait, la décision qui a été prise avec le thérapeute, Fred Gossman, c'est qu'on se réunisse tout un week-end ensemble pour voir le film, qu'on débriefe, comme on dit en anglais, et qu'on achève ce parcours qui a été très long et qu'on a mené tous ensemble. Et ça aura lieu avant la première américaine, dont on espère qu'elle sera à Sundance en janvier prochain.
Alors, comme tous les jours, on demande à nos invités de venir avec un son, et cette fois-ci, eh bien, vous nous en avez demandé deux. Donc, on les a montés. Montage, Thomas Beau, le réalisateur.
C'est presque impossible de prendre une chose pareille. Chacun de ces points représente un navire. Il y a des cuirassés, des croiseurs, des destroyers, des mouilleurs de mines, des bâtiments de toutes les tailles et de tous les genres. La plus grande armada que le monde ait connue. Vous vous en souviendrez. Vous vous rappellerez chaque petit détail. Nous sommes à la veille du jour dont on parlera longtemps, encore après que nous aurons nous-mêmes disparu.
Trinquelot, verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour, ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe, quelquefois ramassé. La mort fait son premier choix. Un second est fait à l'arrivée, dans la nuit et le brouillard.
Tout est dit et pourtant vous allez nous identifier ces deux sons, Laurent Bécurenard.
Donc ce sont des extraits que je n'ai pas choisis, j'ai juste indiqué les œuvres desquelles je souhaitais que vous les tiriez. Le jour le plus long, pour le premier, et Nuit et brouillard. Et en fait, il y a une raison pour laquelle je vous ai demandé ça, c'est que l'année de mes 8-9 ans était le 30e anniversaire de à la fois le débarquement et la libération des camps. Et à 6 mois d'intervalle, ou 8 mois d'intervalle, j'ai été voir avec mon fameux frère Le jour le plus long au cinéma. Et ensuite, notre maître de CM1, je crois, nous a montré Nuit et brouillard. Je crois que c'était une disposition des écoles publiques à l'époque. Et je pense que ça a déterminé, mais je l'ai compris que des années et des années après avoir même commencé à faire du cinéma, mais ça a déterminé mon positionnement dans le cinéma aussi. C'est-à-dire que quand j'ai vu Le jour le plus long, comme beaucoup de jeunes garçons ou de jeunes personnes, j'ai vu des figures héroïques, une représentation de la guerre où c'était assez magnifique quand même. Et puis, et ça correspondait à peu près ce qu'on apprenait en fait à l'école ou ce qu'on entendait autour de nous. Et puis ensuite, j'ai vu Nuit et brouillard. Et je dois dire que c'était peut-être un peu quand même dur de montrer ça à des enfants de 9 ans, mais ça a été un choc révélateur. C'est-à-dire que, sans que je puisse le verbaliser, j'ai compris qu'il y avait quelque chose dont on ne parlait pas. Et que la guerre, et ce qu'elle avait fait à nombreuses personnes tout autour de moi, qui étaient les adultes des années 60, pour qui c'était jamais du passé, mais c'était toujours du présent, c'était là et ils n'en parlaient pas. Et je l'ai compris, ça, au 60e anniversaire, c'est-à-dire 30 ans plus tard. J'ai compris à quel point Nuit et brouillard m'avait marqué de ce point de vue-là. Et que, pour ce qui était du cinéma, jamais je pourrais être dans la représentation, si vous voulez, héroïque de la guerre. Et tout mon travail depuis s'est ancré à l'opposé de ce genre de représentation.
Le rendez-vous, la session.
Laurent Vécu-Renard et Edouard Linel, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, c'est le live du mardi, en relation bien sûr avec l'émission.
C'est Hasse Poulsen qui est là avec sa guitare dans le studio, un musicien qui vient plutôt du jazz et qui publie en cette rentrée son premier album de chansons rock, The Man They Call Hasse Plays Until Everything Is Sold, une manière de tourner en dérision son propre prénom, Hasse, qui est un homonyme de Hasse, le mot anglo-saxon, qu'on peut traduire par cul, mais aussi par dérivation par connard. Et on l'écoute tout de suite dans The President of France is a Criminal, donc c'est une spéciale pour Edoui Plenel. Je traduis juste le premier couplet. Le président français est un criminel, l'Italie est gouvernée par la mafia, en Angleterre, il y a un gros con, en Pologne, c'est un curé, et aucun d'eux n'est foutu de faire le job. Hasse Poulsen, c'est à vous.
The president of France is a criminal. Italy is governed by the mob. In England, there's a jerk, in Poland, it's a clerk. No one of them can handle the job. The earth around is getting dirty. Chemicals are filling the air. They're cutting down the trees. They are emptying the seas in a final greedy battle for a share. And then they throw some bombs on a wedding. A country is smashed in a week. Everyone is running. Democracy is coming. The terror is spreading as we speak. We know that our leaders are liars. Professional pieces of shite. We know they are corrupt. We know that it should stop. The bottom line is taking a hit. Das Kapital is directed by shadows. Money has a life of its own. People die from hunger. Firms are getting stronger. Who has the gut to throw the first stone? You shout that you want to see some justice. A president or two behind the bars. The big shots being nailed, investors being jailed. Well, I'm afraid you can shove it up your ass. In Colombia, the tanks are rolling. The Ivory Coast swims in blood. Afghanistan is broken. Palestine awoken. In Sudan, people crawl through the mud. The strong white men keep the power. You'll never make them share the smallest crumb. The laws are infernal, but far from eternal. They're only placed under our thumb. Criminal. Italy is governed by the mob. In England, there's a jerk. In Poland, it's a clerk. Not one of them can handle the job.
C'était frontal, merci.
Hasse Poulsen en direct dans le studio 108, l'album The Man They Call Hasse Plays Until Everything Is Sold, apparu au label Das Kapital Records. Il sera en concert le 14 novembre à l'Atelier du Plateau à Paris et le 7 décembre à la Guillotine à Montreuil. J'ai donné quelques dates, les autres sont sur son site.
Le rendez-vous.
J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique
de l'erreur judiciaire.
Plateau J'accuse avec vous, Edouard Plenel, journaliste et essayiste. Votre parcours passe bien sûr par le quotidien Le Monde des années 80 au milieu des années 2000. Vous êtes le cofondateur du site d'information en ligne Mediapart, auteur de nombreux essais. Et vous signez actuellement Pour les musulmans aux éditions de La Découverte, un texte inspiré par Lettre à la France qu'Émile Zola avait fait paraître 6 jours avant J'accuse. On entendait un passage en ouverture de ce plateau dans un extrait du film L'affaire Dreyfus d'Yves Boisset. Cette lettre à la France, vous la citez en exergue puis en détail dans votre essai. Mais pour bien comprendre votre démarche, je me demande comment fonctionne précisément pour vous cette référence 115 ans plus tard.
C'est une résonance. J'aime beaucoup ce mot raisonner, la raison, en résonance, en écho. Ce n'est pas une analogie, ce n'est pas la même période, mais c'est un passé plein d'à présent. Quel est ce passé plein d'à présent? C'est celui où commence la discrimination. Ni Zola qui alarme, ni ceux qu'il dénonce, c'est-à-dire Édouard Drumont, Maurice Barrès. Drumont, c'est la version hard de l'antisémitisme moderne. Barrès, c'est la version convenue que Dreyfus est coupable, je le déduis de sa race. Aucun de ces protagonistes ne savent la suite, ce qui se passera 40 ans après, qui pèse sur nous, que nous savons, le génocide, la Shoah, l'Holocauste, comme on peut l'appeler, en tout cas le crime contre l'humanité. Il est plus important de se souvenir de l'engrenage de départ que de simplement sacraliser l'aboutissement, le crime. Car autrement, on est dans une mémoire nietzschéenne, c'est-à-dire ce qu'il appelait le passé antiquaire, fermé, elle n'est pas vivante. Donc ma résonance, c'est celle-là. Quand est-ce qu'on commence à essentialiser une communauté, une partie du peuple, à l'assimiler à un danger et à une menace, à le voir en bloc, à oublier que ce sont des individus, que c'est une humanité concrète, diverse, plurielle, et du coup à construire cette haine, cette peur, voire à produire du coup des monstres entre nous. Il y a une phrase formidable dans l'article de Zola dont s'inspire Pour les musulmans, comme en résonance pour les juifs.
Pour les juifs, c'est une autre lettre qu'il a fait paraître en 96,
voilà,
1896.
Voilà, le premier, son premier réveil où il dit « À force d'agiter un épouvantail, nous créons nos propres monstres ». Eh bien, je crains que si nous continuons à essentialiser, à bouc émissariser, à stigmatiser dans leur diversité nos compatriotes d'origine, de culture ou de croyance musulmane, eh bien, ce sont les monstres qui vont continuer à surgir. Donc, je lance une alarme.
Benoît.
Et donc pour les musulmans, votre travail aussi, c'est de réhabiliter une autre parole, celle d'un député martiniquais, Serge Letchimy. C'était le seul député qui s'est opposé en 2012 à la sortie de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui en pleine campagne avait déclaré que toutes les civilisations ne se valaient pas. Vous écrivez que Serge Letchimy a sauvé notre honneur. Et pour autant, vous expliquez aussi que Le Figaro, mais aussi Libération, parle à ce moment-là de scandale, Letchimy. Vous pouvez nous expliquer ?
Libération avait dit « Le dérapage du député Letchimy efface celui de Guéant ».
Oui, parce que Serge Letchimy, en fait, dans son interpellation à l'Assemblée nationale, ne faisait que reprendre ce qu'a écrit Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme. Dans cette réflexion sur le fait que quand nous sommes invités chez les autres, sans y avoir été invités, nous avons été accompagnés par l'idée que nous étions d'une civilisation, d'une religion, d'une culture, d'une économie, et ainsi de suite, supérieure au monde dans lequel nous arrivions. Et à l'époque, Césaire rappelle combien c'est un engrenage, cette idée de la supériorité qui fait retour et qui, en fait, barbarise celui qui se croit supérieur. L'histoire, nous parlions tout à l'heure de la catastrophe européenne, Hannah Arendt l'a expliqué, c'est-à-dire l'impérialisme fait retour et brutalise les sociétés européennes. À force de croire que nous sommes supérieurs, eh bien, nous allons trier les hommes ici même. Donc Letchimy ne faisait que rappeler ça. Et ce qui m'a énormément choqué, en effet, c'est qu'alors qu'il faisait cette pédagogie de culture et de valeurs humanistes simples, c'était lui le dérapage, parce qu'il rappelait que cela pouvait continuer, aller jusqu'au crime contre l'humanité, puisqu'on nie l'humanité de ceux qui sont inférieurs. Et ce qui a été pire, c'est qu'on a mis sur le compte de son origine, donc de sa couleur de peau, la réaction de M. Letchimy. On l'a renvoyé, on l'a assigné à l'origine. Et je dis, encore une fois, oui, en effet, qu'il a sauvé notre honneur.
Alors c'est assez intéressant parce que tout à l'heure on parlait de généalogie de la colère, c'est à peu près le cas dans votre histoire, parce que le combat de Letchimy fait écho en fait à votre propre histoire personnelle, puisque votre père, Alain Plesnel, était vice-recteur de Martinique entre 1955 et 1959, anticolonialiste notoire, il prend position en 59, il sera même révoqué. Vous êtes né en 52. Quel souvenir, enfant, gardez-vous de l'engagement de votre père en Martinique?
Moi, j'ai le souvenir du peuple martiniquais à l'époque. Mon père n'était pas un anticolonialiste, comme vous disiez, n'était pas un militant. Mon père était un simple fonctionnaire, un haut fonctionnaire. C'était le plus jeune inspecteur d'académie de la France et de tous ses territoires dans cette petite île qui, à l'époque, n'était pas un lieu de tourisme. Il y a eu une injustice, exactement comme celle dont nous parlons aujourd'hui en France, puisque trois jeunes ont été tués dans un rassemblement qui était provoqué contre un acte raciste. Ils ont été tués, dont l'un était collégien, et mon père était responsable de l'enseignement sur cette île. Et il a dit qu'il n'était pas du côté de ceux qui l'ont tué. Il représentait une autre histoire de notre pays, celle de Victor Hugo, celle de Schœlcher, appelez-la comme vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme? Il a dit non, il a commis une imprudence, il n'a pas gardé cette opinion pour lui seul. Ça a été un événement bouleversant pour cette île et pour ce peuple. Pourquoi? Parce que cet homme montrait que nous ne sommes pas assignés à notre appartenance. Il était un haut fonctionnaire, il était blanc, il était du côté de l'autorité, il était du côté du pouvoir. Et alors qu'il avait donc toutes les raisons d'être prudent, d'être réservé, d'être silencieux, il faisait ce pas, il tendait cette main, il était du côté de cette empathie. Pour les Antillais, mais c'est un homme, il est décédé il y a un an, qui montre que l'humanité peut bouger, peut se déplacer. Et c'est tout le sens de ce que j'essaye de dire, c'est que les dangers qui nous menacent, c'est d'être à nouveau fixés, d'être à nouveau assignés, d'être à nouveau immobilisés. Et la seule façon de rompre cela, c'est d'abord de tendre la main. Mon livre, pour les musulmans, c'est tendre la main, comme mon père a dit pour les Antillais, pour les Martiniquais.
Laurent Mécurenard, je vous ai vu prendre une note. Je regarde, c'est mon passé de professeur, c'est pour ça. J'ai un œil sur tout le monde. Vous vouliez intervenir ?
Je n'ai pas vraiment de légitimité à intervenir. En plus, je n'ai malheureusement pas lu le livre d'Éric Plesnel, mais je suis assez admiratif de sa liberté, de son obstination et aussi de son sentiment de nécessité de lutter contre l'injustice, quoi qu'il en soit. Je ne suis pas toujours d'accord avec vous, mais ces trois aspects... Je trouve assez remarquable et je me rappelle puisque vous je ne sais pas si c'est un film de cinéma ou c'est la série télé de Yves Boisset, parce qu'il y a eu un film quand j'étais
téléfilm.
Oui, c'est ça, sur plusieurs semaines et je me souviens toute la France était accrochée à ce film sur Zola et cette figure héroïque que je découvrais puisque j'étais enfant m'a aussi à l'époque beaucoup marqué.
Benoît.
Vous évoquez de Villeplenel la figure d'Aimé Césaire. Elle traverse tout votre essai. Vous concluez d'ailleurs en citant un extrait du premier numéro de sa revue Tropique. C'était en avril 1941. Et à propos d'Aimé Césaire et de sa littérature, on connaît notamment sa poésie. Est-ce que c'était un modèle pour vous? Je vous pose cette question parce que je sais que vous avez tenté à 20 ans de publier un recueil de poésie.
Oui, et que c'est Jean-Jacques Pauvert qui vous a dit surtout ne le faites pas.
Non, je le lui ai envoyé et il m'a répondu. Je garde précieusement la lettre. Où il y avait une phrase manuscrite et la phrase c'était crier n'est pas écrire. Donc voilà, c'était une.
Ah oui,
c'était
une, ah oui quand même.
C'était, oui, crier n'est pas écrire. Donc voilà, après il faut travailler, et il faut être dans cet artisanat. Mais la poésie, moi je crois, vous citez Césaire, je cite aussi Glissant et on pourrait en citer d'autres. Je crois que notre monde aujourd'hui et notamment notre démocratie, la politique au-delà. En tant que bien commun, a besoin d'être réenchanté par une poétique, par un imaginaire. Nous n'avons pas seulement besoin de mesures concrètes, de programmes concrets. Nous avons besoin d'un imaginaire qui nous élève et qui soit concurrent d'un imaginaire régressif qui nous abaisse et qui est à l'œuvre. Et qui est à l'œuvre très fortement quand même. Il suffit d'écouter ce qui est promu aujourd'hui, ou voir ce qui se vend dans les librairies. Et donc, voilà, la poésie, c'est cela aussi. Ce texte de Césaire, il dit « Nous disons non à l'ombre ». Et les cahiers d'un retour au pays natal, qui a été ce coup de tonnerre de l'éruption poétique de Césaire, est un texte au petit matin son retour, est un texte, mais je pourrais citer aussi « Soleil de la conscience », un des premiers recueils d'Édouard Glissant. Je pense que ce chaudron de la Caraïbe francophone est au cœur d'un imaginaire dont nous avons besoin aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes une Amérique de l'Europe. Nous sommes un peuple très divers, très multiculturel. Et loin d'avoir politiquement l'imaginaire que nous devrions avoir pour nous élever, pour nous permettre de vivre ça et d'en faire une richesse et une force avec le monde interdépendant et globalisé d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes au contraire dans le repli, dans la peur du communautarisme, dans toutes ces crispations. Cette poésie créolisée du chaudron de la Caraïbe, eh bien, c'est celle qui, pour moi, pourrait porter cet imaginaire du tout monde et de la relation.
Alors, comme à Laurent Bécurenard, on vous a demandé de nous soumettre une idée de son. Et voici ce que vous avez choisi, Edwy Plenel.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, buvant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme tremble en uniforme sous son gros bonnet. Nous vivons en somme en est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lisou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulement.
On aurait pu faire un karaoké avec vous. Vous connaissez absolument toutes les paroles.
C'est un poème.
Identification de ce son.
C'est un poème. C'est Colette Magny, qui est une figure qu'on entend trop peu du blues des années 60-70. Et il y a d'autres versions, c'est une version tardive, il y a des versions plus rauques encore que celle-là. Et Colette Magny a accompagné, notamment avec l'irruption du mouvement féministe, toute l'effervescence des années 60-70 jusqu'aux années 80. Et surtout, dans sa grande jeunesse, c'est un poème. Et c'est un poème de qui ? De Victor Hugo, qui est intitulé « Les Tuileries ». Et c'est un poème d'avant la révolution de 1848. Donc c'est un poème sur quoi ? Sur la jeunesse. Et sur la jeunesse en l'occurrence des quartiers populaires, sur la jeunesse en révolte, sur la jeunesse sans gîte, sur la jeunesse qui au fond provoque, dérange le bourgeois difforme. Et pour moi c'est un hommage à Rémi Fraisse en fait que je voulais faire. Car la jeunesse, et nous le savons tous, et ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est que nous sommes gouvernés par des gens au-delà de leurs étiquettes, qui sont comme des gens morts, qui sont comme un monde mort, qui ont oublié les jeunes qu'ils furent, qui ne savent même plus que la jeunesse est toujours là pour nous bousculer, pour inventer dans ses excès, dans ses bousculades, et que si l'on n'en prend pas soin, si l'on est uniquement dans cette attitude autoritaire, répressive, négative, la même qu'il y a eu au moment des manifestations pour Gaza, qu'est-ce que c'est qu'une jeunesse qui s'occupe de l'avenir de la Terre, de la solidarité internationale, des immigrés, de tout cela ? Eh bien, c'est celle dont nous avons besoin et il ne faut pas lui envoyer des grenades.
Quel était le jeune que vous étiez en 1968, à 16 ans, en Algérie, quand vous signiez votre premier essai ? À qui la faute ? À Edwy Plenel.
J'étais un jeune qui passait son été à Tipaza. Nous étions les seuls Européens de cette ville chantée par Camus, hein, Nos l'été. C'est là où j'ai passé tous mes étés, toute ma jeunesse. Nous vivions en Algérie, j'avais écouté 68 à la radio. Je ne suis pas un 68-ard. Je suis un jeune issu de ce moment où le monde s'est ébranlé par ces jeunes dans tout le monde. Dans aussi bien le tiers-monde, l'Europe, ce qu'on appelait les démocraties populaires. C'était la jeunesse qui réveillait et qui surgissait comme une classe d'âge et qui a, elle n'a pas forcément produit des réalités politiques, mais elle a inventé quelque chose. Donc j'étais un jeune comme les autres, ordinaire. Je pense que je suis un homme de mon âge, 62 ans, comme les autres, ordinaire. Mais comme l'a dit Laurent tout à l'heure, je pense que
Laurent Bécurenard.
Oui, Laurent Bécurenard, pardon.
Parce qu'il y en a deux.
Oui, pardon, excusez-moi. Laurent Bécurenard, qui est donc là pour Hoffmann, un noir, pour dire qu'au fond, il y a un poème sur lequel je voudrais terminer, qui est un poème de Antonio Machado, un républicain espagnol qui est mort en 1939 à la frontière franco-espagnole, dans la retirada des républicains. Caminante no hay camino. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Ce qui veut dire non pas qu'il n'y a pas d'espoir, mais que le chemin se fait en marchant. Et si l'on ne dit pas non à l'injustice, y compris dans la pluralité de nos noms et de nos refus, eh bien, on ne fera pas un pas devant l'autre pour inventer un oui d'espérance, un oui d'humanité. Nous sommes gouvernés par des gens au-delà de leurs étiquettes, qui sont comme des gens morts, qui sont comme un monde mort, qui ont oublié les jeunes qu'ils furent.
Merci à nos invités. Laurent Bécurenard, votre documentaire Hoffmann en noir est actuellement en salle. Et Edu Plenel, Pour les musulmans, apparu aux éditions de La Découverte. Et puis Asse Poulsen, l'album The Men They Call Us est sorti sous le label Das Capital Records. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Gilles Das, allez, salut l'artiste.
Il n'est pas mort, Gildas ?
Non, il n'est pas mort.
Bah alors, pourquoi vous dites « allez, salut l'artiste » ?
Bah comme ça, c'est pas chaque fois que je dis « salut l'artiste » que le type est mort. Le type est juste pas au top de sa forme, mais il n'est pas mort.
Demain, ce sera peut-être un peu « ciao Pantin ». On parlera télévision et médias avec Philippe Gildas et le dessinateur Charb. Une des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfès, à la prise de son, Élise Le, Clément Daté et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h53, c'est notre réalisateur qui doit être fier de nous. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et à 19h54, tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.